Voilà. Et cette lecture dont je vous parlais tout à l'heure, qui était faite mercredi dernier, c'était la lecture de Jacques chapitre 1er, les versets 13 à 15. Mais aujourd'hui, nous allons considérer le verset 12 également. Jacques chapitre 1er, versets 12 à 15, nous aurons quelques longues lectures à faire ce soir. À part celle-ci qui est relativement courte, nous en aurons au moins une autre lecture à faire pour la réflexion de ce soir. Jacques chapitre 1er, versets 12 à 15. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Parole du Seigneur. Eh bien, pour ceux qui n'étaient pas là mercredi dernier, je rappelle que nous abordons dans la congrégation une nouvelle série d'études thématiques sur ce thème qui est la tentation. Hein? On vient de terminer avec la maturité spirituelle et là on aborde le thème de la tentation. Un thème qui est très présent dans la théologie évangélique, dans la Bible, la parole de Dieu. Je me rappelle en débutant l'étude de cette nouvelle thématique dans la congrégation, mercredi dernier, vous avoir dit ce que c'est que la tentation dans un langage très simple, hein, dans un langage de premier degré, sans rentrer dans de grosses considérations à caractère scientifique ou à caractère de la langue créole ou française dans laquelle nous animons cette étude. Je veux dire que j'ai donné la définition la plus simple, la définition la plus facile à saisir, à comprendre, à savoir que la tentation est une incitation au mal. Une incitation à ce que nous savons être défendu par Dieu, par la Bible, par la parole de Dieu. Autrement dit, la tentation est une incitation au péché. Hein? La tentation, c'est une incitation à la désobéissance. Hein? Ou alors, La tentation, c'est un mouvement intérieur, hein, vers une chose défendue, un mouvement intérieur. Ah. Mais souvenez-vous, j'ai tenu à vous dire très tôt dans cette étude, parce que c'est important, ah, qu'un plaisir légitime, sinon il y aurait beaucoup de confusion si je n'avais pas dit ça. Ça serait très confondant. Ou bien, comme disent certaines personnes, ça serait très mélangeant. Mais ce n'est pas le bon terme, c'est confondant. Je me rappelle vous avoir dit ceci. Quelque chose de légitime, comme le simple fait de manger, de boire, de travailler, d'économiser des sous, penser à d'autres choses très simples de la vie, peuvent devenir des occasions de tentation. C'est pas eux-mêmes qui tentation, hein? La relation sexuelle, par exemple. C'est pas lui-même qui tentation. Les cas vides, il y a occasion de tentation. Manger, cas vide, occasion de tentation. C'est ça que travailler, cas vide, occasion de tentation. Dit occasion. Pas oublié, non? Cas vide, occasion. Même pas comment détailler ça, je vous dis. Mais, moi, je voulais vous comprendre ça. Lire, écouter la télévision, aller sur Snapchat, sur YouTube, sur Facebook, il y a lire des journaux, peuvent devenir des occasions. C'est pas une autre tentation, occasion de tentation. Bon, j'ai tout expliqué ça. Mercredi dernier, chers frères et sœurs, mes bien-aimés. L'apôtre Jacques a jugé nécessaire d'expliquer aux frères et sœurs à qui il s'adressait le processus de la tentation et du péché. Quand il leur dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Pourquoi Jacques? Hein? Pourquoi Saint Jacques, l'apôtre Jacques, avait-il senti qu'il était nécessaire de dire ça, d'écrire cela aux frères et sœurs à qui il s'adressait, à qui ça, son épître s'adressait? Mais c'est parce qu'il disait cela. Il n'arrêtait pas de dire que c'est Dieu qui était responsable, tantôt Dieu, tantôt Satan, qui était responsable de leur tentation, de leur problème, de leur péché. Non seulement de leur tentation, mais aussi de leur épreuve. Il n'arrêtait pas de dire ça parce que, comme vous le savez, nous avons déjà étudié l'Épître aux Jacques dans la congrégation, hein. C'était un peuple qui était en proie à la souffrance. C'était un peuple qui était en proie à un ensemble de chrétiens juifs qui venait de se convertir au christianisme et qui, par conséquent, voyait la misère. Hein, les gens leur faisaient passer, eh bien, toutes sortes de misères. Et alors, ils souffraient la persécution, ils souffraient la faim, ils souffraient toutes sortes de choses. Bon, ces gens de souffrance, ça les amenait souvent à déraisonner. Leurs épreuves les amenaient souvent à déraisonner. OK? Et alors, c'est pour ça que je vous donne un peu le contexte rapidement. C'est pour ça que Jacques a senti le besoin de leur dire, eh bien, ne mettez pas le fait d'être tenté, vos péchés, vos tentations sur le dos, ni des circonstances, ni de Satan, ni de bon Dieu. C'est ça qu'il dit là. C'est ça qu'il dit là. Quand nous sommes tentés, vous et moi, ne mettons pas ça sur le dos, ni de Satan, ni de bon Dieu, ni des circonstances. C'est ça qu'il dit là. Nous y reviendrons, bien évidemment. OK? Bon. Mais vous aurez compris que Jacques ne capitalise pas sur Satan. Il aurait raison de le faire, il ne le fait pas. Il préfère parler de Dieu en l'occurrence. Hein? Il met l'accent sur Dieu. Je vous dirai pourquoi je vous dis ça tout à l'heure, si Dieu veut. Hein? Donc, commençons par le commencement. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Jacques dit, ne dites pas ça. C'est pas normal. C'est pas correct. C'est déraisonnable. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi Jacques dit ça? Jacques donne la raison. Jacques dit, parce que Dieu ne peut être tenté par le mal, alors Dieu ne tente lui-même personne. Voilà. Dieu ne tente pas. Quand j'ai une attirance vers le mal, quand je sens en moi quelque chose qui me pousse vers quelque chose qui est défendu, mais ce n'est pas Dieu qui est à la base de cela, dit Jacques. Aussi vrai, dit l'apôtre Jacques, qu'il est impossible que Dieu soit tenté, aussi bien vrai qu'il est impossible que Dieu tente quiconque. Je répète, aussi vrai qu'il est impossible que Dieu soit tenté, c'est aussi bien vrai qu'il est impossible que Dieu tente qui que ce soit. Gloire à notre Dieu. Dieu ne peut pas faire le contraire de ce que Dieu demande. Dieu ne peut pas faire le contraire de ce que Dieu demande. Dieu est trop sage pour faire le contraire de ce qu'il demande. Dieu est trop bon. Dieu est trop pur. Dieu est trop juste. Dieu est trop saint. Dieu est trop puissant pour se retrouver à faire ce qu'il défend, ce qu'il déteste. Ah, ah. Dieu déteste le mal, alors Dieu ne peut inciter personne au mal. Ah. Si Dieu nous appelle à la justice, Dieu ne peut pas nous inciter, faire que nous soyons attirés par l'injustice. Si Dieu nous appelle à la sainteté, à la fidélité, Dieu ne peut pas nous inciter à l'infidélité. Jacques dit, c'est pas possible. Hein? Cela n'est pas possible du point de vue de la théologie apostolique. Voyez-vous? Voilà. Alors, il est évident, il va de soi que Dieu ne puisse faire ce que Dieu n'aime pas, frères et sœurs. Bon, maintenant, Jacques a un gros problème là. Jacques a un gros, beau problème. Jacques dit ce n'est pas Dieu. Donc, il incombe à Jacques de dire c'est qui, alors qui est responsable. Qui est responsable si ce n'est pas Dieu? Jacques dit pas de problème. Je vais dire qu'est-ce qui est responsable. Verset 14 à 15. Donc, un, notez bien. Un, ce n'est pas Dieu qui nous tente. Un, ce n'est pas Dieu qui me tente, qui nous tente, qui vous tente. C'est que ça s'est réglé. Mais le Saint-Esprit t'a qu'à dire ça, le fini. Mais il n'est pas arrêté là. Il va dire maintenant, c'est quoi le problème? Verset 14 à 15. Mais, on l'a lu ensemble. Mais, je sais avoir dit ça dimanche. Je n'avais pas enregistré, alors c'est pour ça que je reprends, OK? Mais, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Sa propre convoitise. Voilà. Voilà. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Voilà le processus du péché. Voilà le processus du péché. Autrement dit, vous et moi, enfants de Dieu, mais tout comme ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu, les créatures de Dieu aussi, vous et moi comme enfants de Dieu, et aussi d'autres qui sont des créatures de Dieu, qui ne sont pas nécessairement des enfants de Dieu, eh bien, nous sommes les seuls responsables lorsque nous sommes tentés. Voilà. Nous sommes les seuls responsables lorsque nous sommes tentés et par conséquent, nous sommes les seuls responsables lorsque nous cédons à la tentation. Même bagaille. On peut être tenté sans céder. Maintenant, Jacques, c'est radical. Jacques ne parle pas de céder à la tentation. Il parle des deux. Et le fait d'être tenté et le fait de céder à la tentation, c'est moins que responsable à faire. Bien sûr, on parlera de Satan plus tard. Mais d'abord, c'est moi. D'abord, c'est toi. D'abord, c'est X, c'est Y, c'est Z. C'est Alpha, c'est Beta, c'est Lambda. C'est ça l'Écriture dit. C'est ça la Bible dit. C'est ça la théologie apostolique dit. Gloire à notre Dieu. Pourquoi? Parce que c'est dans nos propres cœurs. Ah, c'est dans notre propre cœur, dans notre propre intérieur, que la tentation trouve sa source principale. La source principale, la source ultime, la source de départ. Ah, l'origine même de la tentation, c'est notre intérieur, notre cœur. Voilà. Pourquoi c'est notre cœur? Mais parce que notre cœur est pour la convoitise qui est en nous une sorte de cabine de pilotage. Notre cœur, c'est une sorte de cabine de pilotage de la convoitise. C'est de notre cœur que la convoitise passe les commandes. Hein? Ouais, quand moi, sinon, pas j'ai mis, nous n'avons pas arrêté dans la prière. La caille, nous, il est dans nous-mêmes. Incidemment, David dira, je suis né dans le péché, je suis conçu dans l'iniquité. Mon père m'a même conçu dans l'iniquité. Ah! Ouais, pour qui moi, avons besoin de prier? C'est pas dehors, c'est dans nous. La convoitise opère depuis notre cœur qui est son cabine de pilotage pour commander à nos désirs d'aller dans telle ou telle direction que Dieu ne veut pas. C'est beaucoup télévision, hein? C'est beaucoup film, non? C'est beaucoup monde, non? C'est beaucoup Satan. On y arrive. Mais d'abord, c'est nous. C'est moi, c'est toi. C'est pas mon Dieu. En d'autres termes, remarquez que je ne peux pas parler de péché, mais en parlant de tentation, je suis obligé de parler de péché. Ce n'est pas vrai que je m'appelle Léo. Je pas même bagaille. Je pas même bagaille. Je m'appelle Léo, non? Pendant ma parole de tentation, je ne suis pas capable de parler de péché. Autrement dit, le péché ne vient pas du dehors. Si la tentation qui est à la base du péché ne vient pas du dehors, alors le péché ne vient pas du dehors. Le péché vient de l'intérieur. Le péché est en moi. Le péché est dans le bébé de 1 an, de 6 mois, de 2 mois, de 8 jours, de 10 jours. Ah, voilà la vérité évangélique ce soir. Le péché est en chacun de nous parce que nous l'héritons dans notre nature adamique. Nous l'héritons d'Adam et Ève qui, eux, ont péché avant nous. C'est ça que fait Sam Abdoula, c'est ça lié. Ça ne fait pas différent. C'est pas moi, mais avec vous, ça ne part pas de nous. Et quand j'introduisais cette étude, mercredi dernier, et particulièrement ce point, je vous disais que Jésus a déjà dit ça avant Jacques. Jacques n'invente rien. Et moi, j'invente rien. Je parle à la suite du Christ et de Jacques. Jésus a déjà dit dans ses mots à lui, sous d'autres mots, ce que Jacques vient de dire. Sauf que il n'avait pas la même préoccupation quand l'un disait cela par rapport et que l'autre disait ça. Jacques répondait à telle situation, Jésus répondait à telle situation, mais ils expriment la même vérité, ça va? Dans un contexte différent, ils expriment une seule et même vérité. Voici ce que Jésus, je vous ai dit que Jésus a dit. Le Christ dit, car ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes ou bien de l'homme, que sortent les mauvais désirs, les mauvaises pensées, les adultères. Adultère pas sorti dehors. Adultère sorti en dedans. Mauvais désirs, mauvaises pensées pas sorti dehors. Ils sont en dedans. Les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, dit le Christ, car toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, Matthieu chapitre 7, versets 20 à 23. Ah! Les circonstances extérieures à nous sont des influences. Ah! Les circonstances extérieures à nous sont des influences, contribuent à la tentation. Et si nous y succombons, contribuent au péché. Mais elles ne sont pas les causes premières. C'est pas un jeu. Et ça, c'est un gros trésor pour moi avec vous. C'est un gros bagage à faire là. C'est ça qui vient de prier moi à vos sens. C'est ça qui vient de le bagage qui est la prudence, le sens, la caille moi avec vous. Ça nous aide à mieux lutter contre et la tentation et le péché. Sinon, comme ça, et ça nous fait la rue là. C'est bon, on va faire pour nous amuser. Non, non, là. On va chercher comment mieux lutter au péché. Comment mieux résister au péché. Là, nous finissons ça, on va mieux comment pour nous résister moi avec vous. On va continuer gagnant avec Christ. Ah. Autrement dit, Satan le diable, l'adversaire, même s'il est appelé le tentateur, ses agents spirituels, les démons donc, les démons, les bacas, hein, les êtres spirituels qui sont à sa solde, les hommes, les médias, la télévision, la publicité, sont des influences, sont des causes, mais elles ne sont pas les causes premières. Elles sont les causes indirectes, mais la cause directe de la tentation. Et si nous succombons, donc la cause directe du péché, c'est l'intériorité humaine, c'est l'homme lui-même. C'est comment l'homme est, n'est pas comment l'homme est créé, mais comment l'homme est conçu dans sa naissance. Ah! Jacques n'est pas en train d'oublier Satan, d'innocenter Satan le diable. Ou remarquez, il ne peut pas parler de Satan là.
Il va parler de Satan au chapitre 4, verset 17, quand il nous dira, résistez au diable et il fera l'un de vous, entre autres. Mais là, ce n'est pas de ça qu'il parle. Ça ne fait pas mettre l'accent sur Satan. Il ne voulait surtout pas mettre l'accent sur Satan lui-même parce qu'il combat la pensée de ceux qui mettaient l'accent sur Satan. En s'excusant, en s'innocentant, même mettre le blâme sur le dos de Dieu, histoire de s'innocenter, de s'excuser. Non, c'est nous, c'est moi, c'est toi, c'est chaque homme, chaque femme. Maintenant, ou t'es capable, m'en demande, pasteur, si c'est ça, pourquoi la parole de Dieu dit dans Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11, particulièrement verset 1, pourquoi la parole de Dieu dit, alors Jésus fut emmené dans le désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Vous êtes capable de dire, moi, mais pasteur, de quoi il dit, et à oublier le prophète dit, de quoi l'apôtre Jacques dit, Dieu ne peut pas être tenté. Est-ce qu'il y a une contradiction avec les évangélistes quand ils disent que Jésus fut emmené dans le désert par l'Esprit pour être tenté par le diable? Et Jacques qui dit, Dieu ne peut pas être tenté, Jésus, ce n'est pas Dieu lié. Alors, comment ça, la Bible dit que Jésus était tenté? Moi, j'essaie, dans mon rôle d'enseignant, j'essaie d'anticiper vos questions. Il est vrai que nous ne sommes pas ensemble en présentiel, mais au cas où ça t'a passé dans tête ou, mais nous n'avons pas parlé de même bagaille ici. Même sous temps des tentations, nous allons parler de même bagaille ici. Jésus fut emmené dans le désert pour être tenté, mais parce que le tentateur allait faire quelque chose que la Bible considère comme la tentation, mais c'est la tentation du point de vue de l'adversaire. Ah, c'est la tentation du point de vue de l'adversaire. C'est-à-dire que il fait des suggestions, il fait des propositions au Seigneur, propositions qui pourraient, si le Seigneur avait, comme vous et moi, le péché en lui, qui pourrait l'inciter au mal, à la désobéissance. Mais comme il n'a pas de péché en lui, c'est une tentation du point de vue de l'ennemi, mais ce n'est pas une tentation du point de vue du Seigneur, du Seigneur lui-même, de l'Écriture lui-même. Donc ce n'est pas la même chose. Si la tentation se définit comme une attirance vers le mal qui est en nous, si ça part de nous, alors on parle de deux tentations différentes. Il n'y a pas de contradiction, puisque lui n'a pas de péché en lui. OK? Alors, à mon sens, c'est réglé. Alors, on est mieux pour passer à autre chose. Pas oublier, non? C'est tentation du point de vue de l'ennemi, dans sa tête à lui. Et c'est les suggestions, les propositions, les encouragements qu'il va faire au Christ de jouir de certaines choses en dehors de la volonté du Seigneur. C'est ça qui est considéré ici comme la tentation. Le simple fait de lui faire des propositions. Maintenant, nous sommes mieux pour regarder quelques exemples. Comme ça n'a pas le fait là, mais ça n'a fait moi avec vous là d'ici mi-décembre, si Dieu veut. Nous avons regardé quelques situations où des hommes qui marchaient avec Dieu cédaient à la tentation. Et quelques situations où des hommes et femmes qui marchaient avec Dieu n'ont pas cédé à la tentation. Et on a commencé avec ça qui était cédé. Ça va? Donc, pas oublier ça. C'est ça qu'on a fait là. On a commencé avec vous, avec un cas qu'on connaît très bien. C'est le cas du serviteur Caïn. Ah, c'est le cas du serviteur Caïn. C'est ça qu'on a fait là. On a regardé côté des gens qui tombaient, qui cédaient à la tentation, puis des gens qui pas cédaient. Au sommet, par exemple, Joseph pas cédé. OK? Et pendant que Joseph pas cédé, on connaît Esther pas cédé. Et pendant que Esther pas cédé, on connaît Salomon cédé, David, papa Salomon cédé, vous songez, Samson cédé. Donc, on a regardé ça passer. Pour nous connaître qui enseignement pour nous tirer pour nous-mêmes, moi-même avec vous. Est-ce que les disait là? Alors, voilà. Bon, on connaît côté ça, c'est Genèse chapitre 4. Je vous avais parlé d'une longue lecture, vous vous rappelez? On y est. On pourrait même faire deux si le temps nous le permet. Genèse 4, pourquoi ne pas lire toute la Bible? On va lire tout le passage. On va briser. Genèse 4, on va regarder le 1. On aurait pu commencer avec d'autres, mais Genèse 4, Adam, Caïn. OK? Tu sais, tout bas au plan de match là, et pour la suite des choses, OK? On va regarder quelques cas où des frères sont tombés et d'autres cas où des frères ont résisté à la tentation. Job a résisté. Ah! Job n'a pas cédé. Donc, on regarde ce qui s'est passé. Ceux qui ont échoué, qu'est-ce qu'ils ont fait qu'ils ont échoué? Où ils ont échoué? Et ceux qui ont réussi, où ils ont réussi? Comment ils ont réussi? C'est ça fait là. Genèse 4, m'espérons pour un c'est quoi l'histoire, mes amis? Genèse 4. Adam connut Ève. M'espérons appeler avec moi là. Adam connut Ève, sa femme. Ah, pardon. Oui, c'est ça. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face et je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Et l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Bon, voilà, le Seigneur bénit sa parole. Que comprenons-nous? Nous comprenons que Ève devint enceinte et donna naissance à Caïn et à Abel. Donc, Ève, c'est maman Caïn et Abel. Nous comprenons aussi que les deux jeunes hommes avaient des intérêts différents, un peu comme Jacob et Esaü. Hein? Ils avaient des intérêts différents. Un s'intéressait à la culture des champs. L'autre s'intéressait, eh bien, à l'élevage. Hein? À l'élevage. La culture des champs pour Caïn et l'élevage pour Abel. Et ainsi, Abel était un berger et Caïn un cultivateur. Nous comprenons aussi à la faveur du verset 3 que les deux hommes ont fait une offrande chacun à l'Éternel. Nous comprenons aussi que les offrandes qu'ils présentaient au Seigneur avaient rapport, avaient un lien, étaient en relation avec leur intérêt, leur métier, leur activité journalière. Hein? Ainsi, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel, tandis que Abel, lui, apporta, eh bien, des premiers-nés de son bétail, dit l'Écriture, avec leur graisse. Bon. J'ai déjà prêché ce texte dans l'Assemblée. Hein. J'ai dit que si les garçons ont offert à l'Éternel chacun une offrande, c'est qu'ils ont reçu instruction pour le faire. Même si le texte ne le dit pas. OK? Donc, c'est qu'ils ont reçu instruction pour le faire. Ils savaient que, ils savaient, ils ont reçu les instructions sur comment adorer le Seigneur, sur ce qu'il fallait que chacun apporte à l'Éternel des armées en offrande. OK? Il y a pas de doute là-dessus, même si le texte ne le dit pas. Bon. La parole de Dieu nous dit que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Ah! Ah! Dieu accepte son offrande et lui-même. Il est favorable à l'Éternel. Donc, le cœur qui donne est favorable à l'Éternel parce que le cœur est soumis à l'Éternel. Donc, voilà, c'est important de comprendre cela. Mais l'Éternel ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Bon. Ce qu'on comprend, c'est que Dieu avait une bonne raison, puisque Dieu est sage, Dieu est omniscient, Dieu ne fait jamais rien pour rien, il est juste, il est saint, il est bon, il est fidèle. Dieu ne fait jamais rien pour rien. Hein? Alors, si Dieu a agréé l'offrande d'Abel et il n'a pas agréé l'offrande de Caïn, c'est parce que, eh bien, il avait donné des instructions, ils ont entendu probablement de leurs parents des instructions sur ce qu'il fallait offrir à l'Éternel, puisque Abel l'a fait et Caïn ne l'a pas fait, très probablement. Donc, Caïn a apporté ce qu'il voulait apporter. Il n'y a pas d'autre, il y a pas d'autre chose à penser. Il n'y a pas d'autre chose à croire. Sinon que Caïn apporta à l'Éternel ce que son cœur désirait, ce que lui-même voulait apporter, contrairement à ce que l'Éternel attendait de lui. Voilà. Mais ce n'est pas le cas de Abel. Donc, ce que Abel a apporté plut à l'Éternel. Le texte le dit. Le fait pour Caïn de ne pas trouver de faveur auprès de Dieu, le texte nous dit que cela a frustré Caïn. Ah. Ah. Quelle a été la tentation de Caïn? Quelle a été la tentation de Caïn? La tentation de Caïn, c'était de bénéficier de quelque chose auquel il n'avait pas le droit. Hein? Hein? Pour lequel il n'a pas travaillé. Ici, c'est quoi? Mais c'est l'approbation de Dieu, la faveur de Dieu. Il ne s'est pas humilié, Dieu ne lui a pas accordé sa faveur. Et il ne le prend pas. C'était sa tentation. Et c'est la tentation à laquelle il succombe. Ça ne vient pas de l'extérieur. Ça ne vient pas de Dieu. Ah, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de Caïn, ça vient de son cœur, ça vient de son intérieur. Il aurait dû résister à sa frustration. Il ne l'a pas fait. Ah, il rêve. Il veut avoir ce qui ne lui appartient pas. La faveur divine. Dieu donne les conditions pour obtenir sa faveur. Les conditions pour obtenir la faveur de Dieu, on sait que c'est par grâce, mais en se soumettant à Dieu. Il ne s'est pas soumis à Dieu, il n'a pas obtenu la faveur de Dieu. Hein? J'ai l'air de parler de faveur comme étant quelque chose auquel on a droit, mais non, c'est droit. C'est pas, le terme, ce n'est pas droit, mais c'est mérité. Mérité pas parce que ça vient de nous, mais c'est parce que Dieu, eh bien, nous, on se soumet à lui. La parole de Dieu dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Dieu fait grâce à Abel, mais il a résisté à Caïn. Pourquoi il a fait grâce à Abel? Parce que Abel s'est soumis, hein, s'est humilié devant lui en se soumettant à ses exigences, à ses attentes, à sa volonté. Lui ne l'a pas fait, et pourtant, il tentait, eh bien, d'obtenir la faveur de Dieu. Ne l'ayant pas eu, eh bien, il est frustré contre Dieu qui ne lui a pas accordé sa faveur. Erreur. La parole de Dieu nous dit que Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Verset 5b, frères et sœurs. Et parce que nous servons un Dieu qui n'abandonne pas les êtres humains, qui n'abandonne pas l'homme à son péché, parce qu'il a péché, comme nous l'avons vu faire pour Adam et Ève, maman, papa, Caïn, eh bien, Dieu s'est adressé, il a adressé la parole à Caïn, comme il l'avait fait pour maman, à papa, lui, dans le jardin d'Éden. Et Dieu de lui demander, pourquoi es-tu irrité? Verset 6. Et pourquoi ton visage est-il abattu? Vous aurez bien compris que Dieu pose ces questions-là, mais Dieu avait les réponses. Dieu est omniscient. Dieu se met à sa hauteur. Dieu lui parle. Mais Dieu avait les réponses à ces questions. Dieu lui pose ces questions pour l'amener à se repositionner, à changer d'attitude, à renoncer, eh bien, à sa folie, à sa tentation. Dieu essaie de détourner son attention sur la direction dans laquelle, eh bien, il s'apprêtait à entrer, à marcher. C'est la raison pour laquelle Dieu lui parle. Hein? Dieu voulait attirer son attention. Et non seulement que Dieu voulait attirer son attention, Dieu voulait lui dire qu'il est pas dans, qu'il est sur une mauvaise pente, mais également Dieu voulait donner à Caïn par ses questions en lui demandant pourquoi es-tu irrité? Et deuxièmement, ou bien en colère, deuxièmement, pourquoi ton visage est-il abattu? Eh bien, Dieu visait également un autre but à travers ses questions, c'est à savoir que Dieu voulait donner à Caïn l'occasion, eh bien, de penser sur son attitude, de penser sur son comportement. Et ce que nous voyons au verset 7a, c'est que Caïn ne s'est pas soucié du fait que Dieu le cherchait. Il n'a pas dû répondre à Dieu qui le cherchait, à Dieu qui voulait lui donner une deuxième chance de sortir, eh bien, du cycle de tentation. Et quand Dieu lui dira, au chapitre 4, verset 7a, quand Dieu lui dira, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Ah, c'est-à-dire que si Caïn ce souci de la remarque des questions que Dieu lui pose, il a la chance de sortir. S'il confesse, hein, s'il confesse son erreur ou bien sa tentation qui est déjà devenue un péché, mais qui s'apprête à le pousser à commettre un autre péché plus grand, Dieu lui dit, si tu agis bien, tu relèveras la tête, tu éviteras la catastrophe. Voilà. Tu relèveras la tête. Tu sortiras de ton cycle de tentation et de péché. Et tu aurais la paix du cœur. Si tu agis bien, tu auras la paix intérieure. Parce que visiblement, cet homme qui est irrité à l'intérieur de lui-même, qui est frustré, qui est fâché contre Dieu par le fait que Dieu n'agrée pas son offrande, eh bien, on comprend qu'il n'a pas la paix intérieure. Il aurait cette paix de Dieu qui lui pardonnerait, eh bien, sa frustration, bien son irritation. Mais, comme je viens de vous le dire, Caïn n'était pas prêt à confesser son erreur. Caïn n'était pas prêt à confesser son péché. Caïn n'était pas prêt à répondre à Dieu qui le cherchait en reconnaissant sa faute. Frères et sœurs, mes bien-aimés, en un mot, Caïn n'était pas prêt à accepter, hein, de tenir compte de l'avertissement de Dieu. Ah. Si tu n'agis pas bien, dit Dieu, le péché est à ta porte, ou bien se couche à ta porte, est tapi à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Verset 7b, c'est Dieu qui continue de lui parler, de le sensibiliser. C'est Dieu qui continue de le chercher. C'est Dieu qui continue de lui offrir des occasions de pardon, des occasions de repentance. Mais, comme vous connaissez l'histoire, autant que votre serviteur, votre pasteur, Caïn, semble-t-il, n'était pas intéressé par ce que Dieu lui disait. Et Dieu met une dernière touche à son effort de sensibiliser Caïn quand il dit au verset 7c, domine sur lui, c'est-à-dire domine sur ton péché. Domine sur ton péché revient à dominer sur la tentation. Nous y arrivons si Dieu veut. N'oubliez pas, je viens de vous dire que la tentation n'est pas encore péché. La tentation amène au péché. Donc, une des manières de résister à la tentation, c'est de dominer sur la tentation. Mais, encore une fois, Caïn ne l'a pas fait. Donc, le tentateur avait convaincu Caïn de préférer sa propre vision des choses, son propre chemin, sa propre voie, à la place de la vision de Dieu des choses, de la voix de Dieu des choses, et maintenant, Caïn s'est retrouvé, eh bien, seul avec ses mauvais désirs, seul avec ses mauvais penchants, eh bien, qui finiront par le pousser vers le mal, en nourrissant la haine dans son cœur, comme nous le savons, à l'endroit de son frère Abel. Donc, la colère de Caïn, d'abord contre Dieu, le mécontentement de Caïn, la frustration de Caïn, d'abord contre Dieu, amène un autre péché qui est le péché de la jalousie, qui elle va amener un troisième, on est rendu quoi, troisième péché, la haine contre son frère Abel. Et comme nous le savons, la haine contre son frère Abel finira par mener Caïn au meurtre de son frère Abel, frères et sœurs, mes bien-aimés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Si on ne domine pas sur la tentation, si on ne détourne pas la pensée de la tentation que la convoitise a générée dans notre cœur, Pablo, l'homme te dit que la convoitise charnelle, il y a au Père en nous depuis notre cœur qui est sa cabine de pilotage. Mais nous ne sommes pas les prisonniers de la convoitise. Nous pouvons remporter la victoire. Donc, si l'on ne traite pas la jalousie, quand même, on va commencer par le commencement. Si on ne traite pas la frustration, on va commencer par le commencement. Si on ne traite pas les mauvais désirs peuvent se transformer en frustration. Il y a des frustrations légitimes, mais ce n'est pas de ça qu'on a parlé ici. On a parlé de frustrations illégitimes, OK? Ah, c'est important de le dire. Les mauvais désirs, si on ne domine pas sur les mauvais désirs, ils conduisent à la frustration, mais aux frustrations. Si on ne domine pas sur les frustrations amènent l'irritation. L'irritation, frustration amène la jalousie. La jalousie amène la haine. Et la haine, lorsqu'elle est nourrie, lorsqu'elle est conçue, elle nous pousse à faire du mal à ceux contre qui, eh bien, nous sommes jaloux. À faire du mal à ceux que nous haïssons, parce que d'abord, nous avons, eh bien, éprouvé de la jalousie contre eux. Lorsqu'un meurtre est envisagé, ce meurtre, ou bien lorsqu'un mal est envisagé, il est toujours accompagné, eh bien, il est toujours accompagné d'un mauvais désir qui en est la source, frères et sœurs, mes bien-aimés. Caïn prétendait accompagner son frère dans les champs, et comme ils étaient dans les champs ensemble, Caïn se jeta sur son frère et le tua selon Genèse chapitre 4, le verset 8. Frères et sœurs, mes bien-aimés en Christ. Et encore une fois, nous voyons Dieu qui tend la main à Caïn en lui disant, avoue ton crime, avoue ton meurtre. Quand Dieu lui dit, où est ton frère Abel? Mais encore une fois, la réponse de Caïn démontre qu'il n'a pas voulu coopérer avec Dieu. Il dit à Dieu, je ne sais pas. Mais d'une manière très, très désagréable, en demandant à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Donc, ici, il s'enfonce encore plus dans le mal. D'où l'importance pour vous et moi, je vais m'arrêter ici aujourd'hui, on aura la chance de considérer seulement Caïn, mais je résume le tout pour ce soir. Pour ce soir, l'Écriture nous enseigne que Dieu n'est pas responsable de la tentation de quiconque. Et pas seulement Dieu. Satan, le diable, il cherche à profiter des situations pour mettre devant nous des choses qui peuvent nous inciter au péché, mais quand l'incitation part, c'est de l'intérieur que ça part. Bien sûr, Satan connaît nos mauvais penchants. Il va rassembler des choses pour mettre devant nous. Il sait ce que nous aimons. Il nous entend parler. Alors, il sait si nous sommes très, très disposés à faire des choses. Il va rassembler des choses pour mettre devant nous. Mais même quand il va mettre des choses devant nous, c'est de nous que ça partira, la tentation. Et quand nous, si nous succombons, mais c'est de nous que ça part. L'exemple de Caïn est là pour nous le montrer. Mais une chose qui est très importante, qui va au-delà de la tentation, c'est que la tentation doit être traitée durement dans l'esprit, dans le cœur, dans l'intérieur de l'homme. Elle doit être traitée de l'intérieur avant qu'elle devienne une attitude, un comportement, une action, un geste, une parole. La tentation doit être traitée d'abord, refusée. Il faut d'abord résister à la tentation dans la tête. Quand elle est nourrie, sinon, quand elle est nourrie, mais nous l'avons vue. Elle est conçue, puis quand elle est conçue, mais on n'y résiste pas, on y cède, eh bien c'est là que ça devient vraiment, comment je dirais, catastrophique, puisque nous marcherons, eh bien, de désobéissance en désobéissance, de méchanceté en méchanceté, de péché en péché, de mal en mal. Frères et sœurs, bien entendu, la repentance va être le remède, mais si nous pouvons réprimer la tentation de l'intérieur d'abord, ce sera tout, en comptant sur la puissance de l'Esprit, ce sera toujours mieux. Soyez bénis. Amen, peut-être moins.
Amen.